www.vincentdepaul30.com. Jusqu'à 19h, le Club CERS sur France Bleu Héros.
18h05, la fine équipe est là. Michel Guy, bonsoir.
Bonsoir Gilles, on est d'attaque avec effectivement autour de Philippe Serres Julien Landry. Salut Julien.
Paris, bon, ça, il Paris. Essaye d'être optimiste.
Ouais, ouais.
Ça sonne 10, tellement 10. Faux.
Salut à tous.
Mais non, pourquoi ne pas être optimiste lorsqu'on a ramené un point de Paris et avant de recevoir Nice, on en a des choses à dire avec votre éclairage, messieurs. Et bien sûr, c'est vrai, derrière, un calendrier particulièrement délicat.
Cherche le naturel.
À 18h15, la ligne ouverte, on attend votre avis avec impatience. Et à 18h30, notre invité ce soir, Laurent Nicolin, le président délégué du club.
Le sport sur France Bleu avec Aérosport, compétition aux loisirs.
Je dis oui à mes envies.
Alors, on a réalisé un bon nul au parc, c'est bien, mais au niveau
un
du classement.
Très bon nul au parc.
Au niveau du classement, on est toujours 15e.
Oh ben, fallait pas s'attendre à ce qu'on soit 8e non plus.
Ah non, oui, mais bon, je veux dire qu'on patine toujours un petit peu derrière, non? Vous trouvez pas que c'est dur de se sortir?
Non,
on n'arrête pas d'avoir de bons résultats, on est toujours 15e.
Non, c'est ce qu'avait dit Julien il y a quelques semaines déjà. Il avait dit le calendrier de Montpellier ne serait pas facile, mais celui des adversaires directs et qui sont maintenant en queue de peloton était encore plus dur. Et c'est pour ça qu'en définitive, ce point, pardon de le rappeler, mais quand même, nous met à 7 points des Ajacciens, même si les Corses ont un match de retard, mais bon, c'est quand même très appréciable. Et puis, vous auriez misé combien, vous?
Hein? Surtout le premier quart d'heure, j'avoue que j'étais très inquiet.
Non, mais on avance doucement, mais petit à petit, mine de rien, si on se replonge à l'époque où Fred Hand s'est arrivé, c'est-à-dire il y a un mois, les Montpellierains étaient relégables. Donc, ils étaient 18e avec 2 points de retard sur le premier non relégable. Aujourd'hui, on a 7 points d'avance sur le premier relégable. Donc, mine de rien, si on fait l'écart de points, ça fait plus 9 pour les Montpellierains contre 0 pour le 18e. Donc, à ce rythme-là, évidemment, ça va doucement, mais l'équipe avance tranquillement et moi, je reste persuadé que le sort des Montpellierains peut être joué mercredi soir si les Marseillais vont s'imposer à Ajaccio.
Match en retard.
Match en retard. S'ils s'imposent là-bas, les Corses, ils vont prendre un nouveau coup sur la tête. Alors, ils ont égalisé dans les dernières secondes à Bordeaux. Mais honnêtement, je pense que si Ajaccio vient à perdre mercredi soir, pour revenir pour Ajaccio, ça sera très compliqué, tout comme les Toulousains, et on connaîtra quasiment les trois relégables.
Et puis, un nul à Paris, c'est quand même bon pour le moral, hein, Jérôme.
Oui, c'est toutes les questions dynamiques. Depuis que Frédéric Hans est arrivé, si je ne dis pas de bêtises, je crois que Montpellier est numéro 1 au classement, en fait.
Numéro 2 depuis hier soir.
Voilà, Lyon est passé devant. La dynamique entre Ajaccio et Montpellier aujourd'hui, c'est complètement différent, et je ne vois pas effectivement Montpellier replonger. Il n'y a aucune raison pour que Montpellier redevienne une équipe relégable et soit de nouveau mis en difficulté. Alors, je suis complètement optimiste, moi, à l'inverse de toi, Michel, mais je trouve que cette équipe de Montpellier n'a plus de raison de s'inquiéter aujourd'hui, en tout cas sur ce qu'elle propose depuis un mois et demi.
Et je pense même que les 15 jours à venir peuvent être importants pour viser autre chose que le maintien, parce qu'on reçoit Nice samedi soir et on est à 7 points de Niçois, donc il y a la possibilité de revenir à 4 points. Et ensuite, les Montpellierains iront à Saint-Etienne, qui est aussi une équipe qui prétend à la Coupe d'Europe. Honnêtement, si les... Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre 6 points.
Non, à Saint-Etienne, ça va être dur quand même.
Bien sûr.
Historiquement, à part une fois en Coupe en 89,
ce que je veux dire,
j'ai
c'est
pas souvenir qu'on ait fait un résultat à Saint-Etienne.
Raison de plus.
Ce que je veux dire, c'est qu'en fonction de ce qui se passe et des résultats que vont faire les Montpellierains et contre Nice et contre Saint-Etienne, ça veut dire que sur ces 15 jours, le maintien sera quasiment validé. Et en fonction des résultats, s'ils sont positifs, les Montpellierains pourront viser autre chose. Alors, non pas aller chercher la qualification européenne, mais on n'oublie pas et on le répète chaque année que finir 8e pour Montpellier Héros, ce sera plus intéressant que finir 15e parce que les rentrées d'argent en fin de saison seront beaucoup plus importantes et par rapport au budget qu'a prévu le club, ça sera évidemment une plus-value sur laquelle on ne pourra pas cracher.
C'est pour ça
que ça sera très important.
Ça fait 5-6 millions en plus de budget en plus. Quoi. Donc,
Et puis on le dit, on le répète depuis plusieurs semaines, ce qui handicape le plus les Montpellierains, c'est ce sentiment que rien n'est encore acquis, qui trotte dans la tête et qui peut un peu les bloquer. Maintenant, à force, effectivement, ils vont pouvoir jouer beaucoup plus libérés et donc du coup, peut-être envisager, pourquoi pas, d'autres performances comme celle de samedi. Ils en sont capables avec un super pionnier, par exemple.
Oui. Bon, enfin, moi, je m'aventurerai pas, je vais pas me lancer vers cette perspective, cette projection-là de se dire on va jouer l'Europe, on va jouer les 10 premières places. Non, c'est un peu tôt, écoutez, c'est un peu tôt. La plaie, elle est pas totalement refermée.
Voilà, ça leur fait du bien, quand même, je veux dire.
Oui,
c'est bon cataplasme, le 0-0 à Paris.
Attendez, le point à Paris, il en vaut 2, hein, même 2 et demi, quand on sait d'où vient l'équipe de Montpellier. Bon, écoutez, c'est vrai, on va se régaler là, à se dire que bon, les équipes qui sont devant sont pas loin, que le championnat est très resserré, que tout peut arriver, etc. C'est ça, tout peut arriver. Alors, ils peuvent monter. Je ne les vois plus, voilà. Comme disait Jérôme, je les vois plus descendre maintenant. Je pense que c'est plus qu'une dynamique. Parce que la dynamique, on l'entretient avec de bons résultats. C'est vrai, ils sont là. Mais je pense que cette équipe, elle est consciente de son potentiel, quoi. Elle était mal managée, voilà tout.
Elle est plus que libérée. Parce que quand on voit la façon dont ils ont joué défensivement contre Paris, c'est-à-dire, en les pressant haut, en osant presser Paris haut, il faut oser quand même. C'était une prestation défensive, mais ils ont pas fait comme 90% des équipes qui attendent de leurs 30 mètres et qui invariablement finissent par encaisser un but. Ils ont été les chercher, ils les ont empêchés de jouer. Alors derrière, il y a eu Pionnier, mais c'est une équipe qui n'a plus peur d'elle-même.
Ouais. Non, mais Philippe a raison. Le management a totalement changé de cette équipe-là. Je pense que n'importe quel entraîneur avant Frédéric Hans aurait dit « Ah, de toute façon, le match à Paris, c'est un match bonus pour Montpellier. Dans la situation où on sait qu'on va perdre. Il faut déjà préparer Nice. » Et je pense que Hans a bouleversé totalement l'approche de toutes les rencontres. Et il a martelé le message pendant toute la semaine à ses joueurs qu'ils étaient capables d'aller gagner à Paris. Qu'ils allaient même gagner à Paris. D'ailleurs, Vittorino Hilton, vendredi au Point Presse, nous a dit « On va à Paris pour gagner. » Je pense qu'il y a...
Ils n'ont jamais pu, hein.
Non, mais évidemment. Ce que je veux dire, c'est qu'aucune des 18 autres équipes qui se sont déplacées à Paris n'ont eu ce discours-là en disant « On va à Paris pour gagner.
Ouais, » ouais,
on aurait
clair.
Pu dire que c'est de la prétention, mais je pense qu'ils étaient certains de leur force et que ce nouveau management permet aussi aux joueurs d'avoir confiance en eux. Et je pense que Fred Hans, dans ce sens-là, il est en train de il leur fait croire qu'ils sont champions du monde presque toutes les semaines à ces joueurs-là. Donc évidemment, ils arrivent totalement libérés. Et depuis qu'il est là, en tout cas sur la pelouse, l'équipe elle est totalement différente.
Ah, puis il a eu le petit coup, le match contre Toulouse où ils sont pas bons, ils gagnent. Pour moi, ça fait basculer la saison parce que ça enterre Toulouse déjà. Et puis ça les a pour le coup libérés.
Alors j'ajoute quand même qu'il s'est passé quelque chose de pas banal à Paris durant la première mi-temps. C'est la sortie qui longtemps a été inexpliquée de Brian Dabo. Alors évidemment, en pareille situation, quand on est en poste le commentateur, quand on voit de haut, on se dit, bon, ben, il y a quelque chose, il s'est blessé. Non, il s'est pas blessé, Brian Dabo. C'est pour ajouter que non seulement le discours de Frédéric Hans aujourd'hui est très positif et parfaitement perçu par les joueurs, mais c'est un homme aussi qui est extrêmement vigilant sur tout. Et il a très bien vu que Brian Dabo n'était pas dans ce match, que Brian Dabo ne respectait pas les consignes, et c'est lui qui a volontairement décidé de sortir Brian et de le remplacer par Yatabaré. Alors ça aussi, c'est très parlant. Parce que bon, on fait sortir Dabo, il y avait quand même sur le banc Jamel, il aurait pu
assurer derrière.
Voilà, simplement équilibré. Il fait rentrer Mustapha. Voilà, c'est très parlant. Mais c'est parce que la prestation de Brian ne lui a pas plu, au moins sur ce temps de jeu-là, que Dabo est sorti.
Et alors, quand on veut avoir le courage, l'impétuosité de presser haut au Parc des Princes, il faut quand même un goal pour assurer derrière.
Ouais, mais avant
on l'a eu. Hein.
Avant le. Oui, moi, on va parler de Pionnier, naturellement. Je précise quand même que pour la mixture parisienne de samedi, on aura beau dire que ça n'était peut-être pas la grande armada du Paris Saint-Germain, mais pardon, hein, il y avait quand même Cavani, Lucas et Di Maria devant, donc ça au moins sur le plan offensif, d'ailleurs on s'en est rendu compte dans le premier quart d'heure, c'était quand même pas une équipe de peintres.
Bah, l'équipe alignée par Paris, je pense qu'elle est championne de France à la fin de la saison, même sans Zlatan, même sans Pastore, je pense que c'est l'équipe qui avait sur la
faux débat, faux débat.
Ouais, faux débat.
Alors oui, évidemment, quand on met les noms, il manquait Thiago Silva, il manquait David Luiz, Matuidi, Verratti, évidemment. Mais l'équipe qui est alignée, elle était énorme. Mais voilà, je pense que, et Laurent d'ailleurs l'a souligné très justement samedi soir, alors il aime pas trop se jeter des fleurs, mais il a tenu à féliciter aussi le travail collectif, parce que si Laurent aussi a été aussi bon, c'est parce que et Congré et Hilton ont fait aussi un énorme boulot, que le petit Elias Skiri, je pense qu'il faudra en parler aussi,
on va en parler, bien sûr.
Un énorme match, et que même devant le pressing qu'ils ont fait, tout le monde a été très bon sur ce match-là. Peut-être excepté Brian, qui était peut-être un peu en dessous,
déjà,
en tout cas par rapport à ce qu'attendait Hans de lui.
Voilà, déjà Brian, et puis bon, ça ne lui est pas arrivé si souvent dans la saison, alors il ne nous en voudra pas de dire quand même que s'il y a bien un seul joueur qui, me semble-t-il, est passé à côté de sa copie au Parc, c'est William Rémy.
On reparle de cette belle prestation de l'ensemble de l'équipe dans une petite minute avec les auditeurs dans la ligne ouverte.
France Bleu. Les Chevaliers du Fiel sont sur France Bleu.
Salut Emine.
Salut Fernand.
Et je te serre jaune.
Hop là, je le vois ton œil.
Rictus.
Rictus de l'histoire drôle.
Exactement. Toi. Tu sais que la différence qu'il y a entre les mariages et les enterrements ?
Non.
Ben, c'est bien seulement quand on n'est pas dans la première voiture.
Les Chevaliers du Fiel, à 8h45 et 16h45 sur France Bleu Héros.
Sur France 3, Sandrine Bonner dirige la pension du Plessis.
Elle veut pas que je garde le bébé. C'est pas elle qui décide.
Mineures et enceintes, elles refusent d'être exclues de la société. Inédit, elles, les filles du Plessis, l'histoire vraie d'une révolte des années 70, suivie d'un débat sur les mères adolescentes, mardi, dès 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit.
Le Club CERS sur France Bleu Héros.
Alors on va avoir l'occasion avec Jules Landry, Jérôme Disnis et Philippe Serres ce soir de reparler de l'ensemble de cette prestation. Il y a beaucoup de choses à dire, et notamment à propos de chaque individu de l'équipe Montpellier-Rennes. Mais on attend vos appels, bien sûr, votre avis sur cette rencontre et puis surtout sur la prochaine. Que vaut cet OGC Nice ? Est-ce qu'il vous fait peur ? C'est samedi soir à 20h.
En tout cas, cette équipe vous fait peur à vous.
comme les 18 autres.
Oui, en même temps. C'est ce qu'on attend vos appels.
France Bleu Héros. Le Club CERS, 04 67 58 6000.
Oui, il faut parler de Elias Skiri.
Pescalune.
Ah, il est super. Hein.
Ouais, c'est. Il ressemble beaucoup à Saï dans sa façon de jouer. Un joueur défensivement très dur, très costaud, présent, qui n'a pas peur. Ce qui, à son âge, est rare, à ce poste en tout cas, et qui est capable de modifier les ballons. Il a vraiment quelque chose, ce joueur. Il a tardé à être exploité, parce que ça fait quand même quelques temps qu'en réserve, il était déjà très bon, au-dessus du lot. Et là, Hans Frédéric Hans lui donne les moyens de s'exprimer, et il le fait très très bien. En tout cas, à Paris, il a été très bon.
L'un des grands bénéficiaires de changement d'entraîneur, là, pour le coup.
Avec constance, parce que les 3 ou 4 fois qu'on l'a vu, il était très bien.
Non, mais en tout cas, c'est un vrai choix. En plus, c'est aussi une grosse marque de confiance, parce que il aurait titularisé Skiri parce que Jamel était blessé et que finalement il n'avait pas trop le choix en se disant mais voilà, j'ai plus que Skiri. Non, Jamel était dans le groupe, alors il a été ménagé, mais il est quand même monté à Paris. Ça prouve que quand même, donc Fred Hans a entièrement confiance en Elias Skiri, que Elias Skiri est quand même passé du coup devant William Rémy dans ce poste de numéro 6. On vous rappelle que Roland Courbis faisait jouer William Rémy milieu récupérateur, qu'il est passé aussi devant Rami Ben Sebaini. Donc en un mois, il est passé quand même devant beaucoup de joueurs. Et ce qu'il a prouvé encore une fois à Paris, parce que c'est quand même dans un contexte assez compliqué, face à un milieu de terrain très solide,
il y a du monde en face.
Pression. Il a fait vraiment une prestation très propre, et c'est un joueur qu'on est amené à revoir souvent, et c'est un joueur qui va peut-être même permettre à Jamel de souffler quelques fois, parce que voilà, Jamel, ça fait quasiment 2 ans qu'il a pas joué, la répétition des efforts.
Ouais, j'allais dire, il a longtemps soufflé.
Oui, il a beaucoup soufflé.
Oui. Non, mais c'est vrai que la répétition, ce dont il souffre aujourd'hui, c'est la répétition des efforts, Jamel, parce qu'il est plus habitué. Et le fait d'avoir un Elias Skiri derrière lui, qui peut lui permettre de temps en temps de souffler sur une demi-heure, sur quelques matchs, ça sera aussi une vraie plus-value pour les Montpellierains.
Et qui est capable de jouer en défense centrale, je sais pas où est là, on l'a jamais vu, mais en tout cas, en CFA2, il le faisait régulièrement pour dépanner, il le faisait très bien.
Alors, viendra s'ajouter à la confirmation, à l'épanouissement d'Elias Skiri bientôt, et ça c'est tout bénef pour l'équipe et pour Frédéric Hans, le retour de Sanson. Hein, c'est prévu pour samedi.
On va en parler.
Moi, ça fait plein de problèmes tout ça quand même.
Voilà.
C'est problème de riche. C'est pas trop tôt. Voir cela.
Ouais, mais je sais pas. Sanson, s'il retrouve son niveau, on enlève qui de cette équipe-là aujourd'hui qui marche bien? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire quand même que Fred Hans a sorti un 11 type. Mine de rien, avec Jamel Saï, Skiri, mais d'abord à droite.
Tactiquement, malheureusement, la place à Sanson aujourd'hui, Jonas.
Ouais, mais sur les matchs que fait Jonas, notamment contre Lille, c'est compliqué. Le match qu'il a fait à Paris, c'est compliqué. C'est un vrai problème. Je suis d'accord, c'est un problème de riche. Mais ça va faire un déçu, parce que l'équipe aujourd'hui qui aligne Hans, elle tient la route, et Sanson, il faut lui trouver une place, mais où?
Oh, il y aura bien des suspendus, des blessés, enfin, j'espère pas, mais ça, forcément, à un moment donné, ça va tourner. Donc,
on croirait le discours de Laurent Blanc quand il ne sait pas Pastore à la place de
Verratti. Il fallait bien que le match tourne, quand même.
Par exemple, c'est un problème de riche. On va pas se plaindre d'avoir Sanson sur le banc, se dire on va le mettre. Mais aujourd'hui, quand on a trouvé une équipe qui marche, enlever un joueur dans ce fonctionnement qui marche, c'est compliqué.
D'ailleurs, Jonas Martin quand même a eu un début de saison compliqué, loin des attentes qu'on portait en lui. Et lui aussi est pas métamorphosé, mais on retrouve le joueur sur lequel on avait pu s'appuyer la saison dernière. Ça fait du bien, quoi.
Enfin, vous savez, de toute façon, cette métamorphose de l'équipe, elle porte un nom, voilà, oui, qu'on ne citera pas.
Et revoilà Julien. Bonsoir Julien.
Bonsoir Michel, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde.
Alors Julien, vous étiez à Paris.
Oui, Julien.
Ah, regardez, j'ai plus de voix.
Oui, Julien, il était à Paris et Julien, il y est monté en voiture. Comme ça, au moins, il a vu tous les temps passer, le temps de la montée dans la capitale, n'est-ce pas, Julien?
Eh oui, c'est ça, Philippe. Ouh, tu suis mon actualité un peu sur Internet.
Un petit peu, oui.
Alors, Julien.
J'étais à Paris samedi, à travers la neige. Moi, je suis vraiment, un petit entre guillemets, je suis vraiment déçu du Parc des Princes. Parce que j'ai cru, bon, vous l'avez vu, Philippe, sûrement le parkage à Paris, il n'était pas plein. Pourquoi il n'était pas plein? Parce que au moment où je vais pour acheter ma place de stade à Paris, elle était de 40 euros au lieu de 10 euros dans tous les stades de France. Et je pense que ça, c'est vraiment une honte et un peu que les gens de Paris un peu se foutent un peu de nous, de nous faire payer une place 40 euros à Paris. Et dans tous les stades, 10, donc okay. Voilà. Donc si des supporters de Montpellier ils nous écoutent, eh bien, je pense qu'ils sont d'accord avec nous, avec moi je veux dire. Et, donc, et la sécurité à Paris est vraiment zéro, j'ai vu l'article sur Midi Libre ce matin, vraiment, l'accueil à Paris, je suis vraiment dessus.
Ok, alors messieurs, c'est quand même un beau stade le Parc des Princes quand même,
non. On peut comprendre les propos de Julien. En même temps, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et le contexte n'est pas très joyeux parce que nous sommes toujours
en état d'urgence.
Le plan Vigipirate est toujours actif autour du Parc des Princes. Alors c'est vrai, il y a énormément de stadiers. Je suis pas loin de penser d'ailleurs qu'il y en a autant que de portes d'accès au stade et de portes à l'intérieur même. Et oui, il y a des filtrages très en amont du stade. L'accès, même pour la presse d'ailleurs, était extrêmement compliqué. Mais bon, les choses peuvent se comprendre.
Et puis concernant les tarifs, c'est une chose dont se plaignent aussi les supporters parisiens, parce que l'abonnement est devenu très cher, les places pour les matchs sont devenues très chères, mais aujourd'hui le PSG c'est devenu une entreprise de spectacle, avec des grands joueurs, avec des grandes ambitions, et un spectacle ça se paye.
Et puis c'est la loi de l'offre et de la demande, hein, il y a un bassin de population de 12 millions d'habitants pour un stade de 40 000 places.
Volonté de changer ses supporters. Le Paris avait un problème avec les supporters de Boulogne notamment. Le problème c'est que en sanctionnant les supporters de Boulogne, ils ont sanctionné tous les supporters populaires.
Ça, c'est un vrai problème à Paris, l'ambiance.
Non, mais après, voilà, c'est la loi de l'offre et la demande, c'est du spectacle, et aujourd'hui, c'est les prix qu'il y a en Angleterre, et Paris, ils veulent gagner de l'argent sur la billetterie. Et donc, alors après, c'est vrai, c'est très compliqué qu'il n'y ait pas aujourd'hui des prix abordables pour les supporters, mais malheureusement, c'est devenu ça.
Julien, il y avait de l'ambiance à le stade quand même?
Ah oui, ouais, franchement, je sais pas si Philippe l'a entendu, on a bien chanté à 10 minutes de la fin. Les Parisiens, c'est dur de se faire entendre au parc, mais voilà.
C'est ça le problème.
J'en ai même mal à la voix, alors pour vous dire que vraiment, on a rien lâché, quoi.
Okay.
Pour moi, le point pris, c'est comme si on avait remporté les trois. Il faut assumer, on est seulement la troisième équipe qui est venue chose à Paris. Je suis content, moi, vous me dites ça. Au début du mois de janvier, Montpellier va faire un nul à Paris. J'y crois pas de suite. Hein.
Merci Julien.
Merci beaucoup Julien.
À la prochaine. Salut. Gérard, bonsoir.
Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir tout le monde.
Vous inquiétez pour Hilton?
Je suis inquiet parce que Hilton, c'est Hilton. Hein. Depuis des années, c'est certainement le meilleur joueur du club. Et je vois qu'avec son âge, bon là, il sort blessé. Alors je me pose la question, est-ce que le club, est-ce que la direction envisage pour les années à venir, est-ce qu'ils ont de vue sur quelconque joueur quoi, pour remplacer?
La question, je pense que le club se l'est déjà posée, mais en fait aujourd'hui n'est pas de savoir si oui le club veut remplacer de suite Vito. C'est que le club est tenté de poursuivre un peu l'aventure avec un type qui est quand même exemplaire sur bien des points, qui a souffert d'une petite béquille à Paris.
Il va bien.
Il va jouer. Non, voilà quoi. C'est un rapport. C'est un peu de l'affect concernant Vito. Mais bien entendu, va se poser plus franchement la question assez rapidement du remplacement de Vito Rino un jour. En tout cas sur la saison qu'il a en cours. C'est vrai que, bon, on peut raisonnablement considérer qu'il pourrait poursuivre l'aventure au moins une année de plus, mais peut-être pas en faisant les 38 matchs.
Alors, pourquoi chercher un remplaçant à Vitorino Hilton aujourd'hui? Honnêtement, je pense que le Hilton qui est encore cette année, il est titulaire dans les 19 clubs de Ligue 1 en défense centrale.
Dans le classement des notes de quasiment tous les quotidiens ou hebdomadaires de France, il est meilleur Montpellier.
Oui, non, mais il serait titulaire dans 19 défenses de Ligue 1 aujourd'hui.
Pardon?
Je dis, la question, c'était pour l'an prochain,
oui, bien sûr. Mais après, et c'est une vraie question, mais en même temps, tous les ans, on se pose cette question en se disant, l'an prochain, ça va être compliqué,
oui,
pour l'État.
Mais attendez, il arrive quand même à 40 ans, là, bientôt.
Bien sûr, mais il a une longévité incroyable. Mais ce qu'il réalise encore aujourd'hui, c'est incroyable.
Ah, tout à fait.
Non, mais on se poserait la question sur Vitorino Hilton si on le voyait décroître ses performances, si on le voyait aller moins vite, si on le voyait moins efficace. Sauf qu'aujourd'hui, moi, quand je vois les matchs de Hilton, je me dis pas, là, on sent que ça devient dur pour lui. Je le trouve toujours irréprochable dans tout ce qu'il fait.
On peut, Gérard, si vous le voulez, ajouter à la problématique Hilton en défense centrale, la problématique Congré qui risque de partir. Parce que là, ça fait un double point d'interrogation.
C'est ça. Et le Eben Saïbani, qui à la phase devrait, enfin, en tout cas, a été recruté pour pouvoir jouer aussi en défense centrale, qui aujourd'hui joue plus beaucoup. Donc, est-ce qu'il va rester au club? Est-ce qu'il est prêté?
Non, il restera pas.
Non, a priori, non.
Il y a un vrai point d'interrogation sur la charnière centrale, quand même.
Non, parce que je pense que Congré est en train de négocier sa prolongation de contrat et ça devrait se faire assez rapidement. Et Vitorino Hilton, je pense qu'ils vont lui proposer une nouvelle année en plus. Et voilà, après, faut pas oublier qu'il y a William Rémy qui fait des très bons matchs sur ce poste de latéral droit qui n'est pas du tout son poste. Et je pense que lui, ça sera aussi l'avenir en défense centrale.
Oui.
Et que la priorité du recrutement montpelliérain la saison prochaine, c'est un latéral droit. Et qu'une fois qu'on aura trouvé un vrai latéral droit, on repositionnera William Rémy en défense centrale. Et que les trois, Congré, Hilton et Rémy, ils feront l'affaire parfaitement.
Et puis on peut raisonnablement supposer que de toute façon, tant bien même viendrait-il l'envie à Daniel de partir, je doute fort aujourd'hui. Même au regard de son excellente saison, je doute fort aujourd'hui qu'il trouve un meilleur salaire que celui qu'il a aujourd'hui en Montpellier.
Mais des offres, oui, sans doute.
Oh, des offres sans doute. Oui,
parce qu'il a le salaire qu'il a eu quand Montpellier est sorti du titre de champion de France. Donc c'est plus du tout le même salaire que qu'il aurait.
Voilà rassuré, Gérard.
Oui, mais bon, moi j'aurais préféré qu'ils aient des vues sur véritable libéro, quoi.
Ouais, peut-être que Laurent Nicolas va nous le dire tout à l'heure.
Ben oui, bon, écoutez, on va poser la question à Laurent dans trois petites minutes.
Et les joueurs, c'est bien beau, bon, je veux bien y croire. Mais enfin, pour remplacer Hilton, ça va être dur, hein.
Absolument, c'est vrai. Il est à ne pas se devenir une véritable
icône. Ça, c'est un point d'accord,
ça. Ouais, tout à fait. Merci, Gérard, de votre intervention.
Merci bien.
Bonne soirée à vous, à la prochaine.
Gérard.
Alors, on va recevoir Laurent Nicolin dans deux petites minutes à présent, mais j'aimerais qu'on revienne sur... on a parlé de Hilton et de Sanson un petit peu. J'ai entendu, il revient samedi.
Il sera dans le groupe, il sera dans les 18, donc je pense pas qu'il sera titulaire, mais je pense qu'il va rentrer. Il a fait toute la semaine dernière d'entraînement avant Paris, mais Fred Hunt n'a pas voulu le monter à Paris, donc il va refaire une nouvelle semaine, et je pense que samedi, il sera dans les 18, et qu'en fonction du scénario du match, c'est un joueur qui peut rentrer à l'heure de jeu.
Est-ce qu'on est vraiment au fait de la forme de Saï? Il est rentré en cours de jeu.
Je pense vraiment que Jamel, c'était... La répétition des efforts qui ont pesé sur... Après, c'est toujours pareil, on croit ce qu'on dit le club. À partir du moment où il ne souffle pas du genou, la principale crainte pour Jamel, c'est ses genoux. À partir du moment où si c'est les adducteurs ou autre chose, c'est les répétitions... Moi, voilà, il ne faut pas qu'il souffle du genou. Tant qu'il n'a plus mal au genou, on est tranquille.
Vous savez, ce qui est arrivé à Jamel, c'est arrivé à Morgan Sanson, c'est arrivé à Joris Marvo, et ça arrivera, on ne l'espère pas, mais on le craint quand même à Paul Lann aussi, quand il reviendra. C'est-à-dire une blessure qui vous éloigne des terrains si longtemps, vous revenez à la compétition, la jambe qui n'était pas blessée a supporté pendant toute la période de soins. Bon voilà, il y a des risques de rechute, oui, mais pas des rechutes de même nature que celle qui vous a écarté du terrain.
Plus musculaire en l'occurrence, voilà. pour Jamel.
Donc la fin de saison s'annonce plus tranquille au niveau de l'infirmerie.
La presse dira adieu.
Gilles,
oui.
Vous voilà satisfait comme nous, je pense.
Tout à fait. Voulez-vous que l'on parle de météo, Michel?
Oh, ben avec plaisir.
Pour demain, mardi 8 mars, de belles éclaircies en pleine et sur le bord de mer, sur le relief. On aura un ciel plus chargé, mais sans pluie et sans neige, nous signale Météo France. Mistral et Tramontane vont reprendre jusqu'à la fin de la semaine. Ils se renforcent de nouveau avec des pointes à 70-80 km/h. Les températures maximales, pratiquement 13 degrés sur le Mont-Pelirin.
La météo avec Fransat. La TNTHD gratuite par satellite partout en France. Plus d'informations sur www.fransat.fr.
18h30, vos conditions de circulation. Le trafic reste chargé sur l'avenue de la Liberté dans le sens de la remontée jusqu'à pratiquement la Mosson. Et puis, il y a toujours quelques soucis également pour sortir de Montpellier côté avenue Pierre Manès France et côté Zénith Sud de Montpellier.
Jusqu'à 19h, le Club CERS sur France Bleu Héros.
Deuxième partie du Club CERS, Michel Guay.
Et oui, ça va vite. Et tant mieux. Merci Gilles, parce qu'on a plein de choses à dire. On a à parler...
Mais ne vous énervez pas comme ça.
Peut-être pas encore du match de Paris, mais déjà se projeter sur le futur et le futur proche, c'est l'OGC Nice. Que vaut cette équipe de Nice? On en parlera tout de suite après Laurent Nicolin, qui est notre invité à présent.
Le sport sur France Bleu avec Aérosport, compétition aux loisirs.
Je dis oui à mes envies.
Et en attendant, Laurent Nicolin, un petit mot sur Pionnier qui a été fabuleux et Jourdain, puisqu'on n'a pas encore prononcé son nom, qui doit revenir. Quid de la décision à prendre pour Frédéric Hans?
Éducation à Cap-Breton pour Geoffrey Jourdain, qui va bien finir par en revenir de toute façon, mais la problématique va s'opposer, ça c'est certain.
Il a annoncé dans le retour dans le groupe pour lors de la trêve internationale, donc ça lui laisse encore 15 jours à Frédéric Hans pour solutionner le problème.
À mes yeux, hein, y a aucun problème. Il y a aucun problème. Oui. Quelle est la raison objective d'enlever Laurent Pionnier des buts de Montpellier aujourd'hui? Il y en a aucune.
C'est parce que Jourdain était le numéro 1.
Oui, mais aujourd'hui le numéro 1 sur ses prestations, c'est Laurent Pionnier. Il y a aucune raison d'enlever des buts de Montpellier.
Ok, on en reparle après si vous voulez, parce qu'on salue maintenant, comme promis, Laurent Nicolin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir messieurs.
Merci d'être avec nous ce soir dans le Club CERS.
Bien heureux. Bonsoir Laurent. Bien heureux de vous avoir ce soir avec nous au surlendemain de ce match au Parc. J'imagine que vous avez certainement apprécié plus que personne la valeur de ce point qui, au fond, en valait presque deux.
Prendre un point au futur champion de France, c'est toujours compliqué, donc on va dire qu'on le savoure, même si ça a été compliqué, même si on nous a dit que Paris n'avait pas mis la grosse équipe, même si, mais en fait bon...
Ah quand même.
Voilà, donc oui, merci. Donc il y avait quand même la grosse équipe sur la fin, donc non, c'est un point qu'on ne comptait pas avoir, donc c'est un point de plus pour notre lutte pour le maintien, donc on va dire on a 36 points, on est très heureux, même si on est encore loin du compte.
J'aimerais bien savoir, évidemment, on aimerait tous savoir ce qu'au fond de vous ressentez depuis plusieurs semaines avec cette métamorphose de l'équipe sur le terrain, peut-être un peu, sur le résultat surtout. J'imagine que vous êtes très soulagé, on va dire ça d'abord.
Soulagé, je ne sais pas si soulagé, je serais soulagé quand on aura enfin atteint les 42 points, mais je veux dire rassuré, parce que je pense qu'on a pris un entraîneur qui est compétent, on a pris un entraîneur qui s'est tout de suite imprégné du club et qui fait travailler les joueurs, donc ça change. Donc à partir du moment où les joueurs travaillent, où les joueurs prennent un peu plus confiance en eux, eh bien, on voit les résultats qu'il y a et ça me conforte pour me dire qu'on n'avait pas une si mauvaise équipe que ça en début de saison. Donc, mais bon, on fera les bilans et les comptes en mois de mai.
Julien Landry.
Oui, bonsoir Laurent. Tu dis que vous êtes encore loin du compte, mais est-ce que tu quand même peux préparer plus facilement sur ta feuille? T'as plus que la feuille Ligue 1 devant sur ton bureau, quoi, pour la saison prochaine. T'es quand même un peu plus tranquille sur l'avenir du club, même si c'est pas encore acquis, mais vous êtes un peu plus dans la certitude.
Je préfère être à ma place ce soir qu'à la place de Guingamp ou d'Ajaccio. J'ai 36 points. Il manque deux victoires pour atteindre les 42 points et être mathématiquement, je pense, sauvé. Mais non, plus tranquille, non, parce qu'on va dire la saison a tellement été compliquée que je prends les matchs les uns après les autres et même le soir de Paris où le coach ou mon père ou moi-même on a fixé les joueurs, j'aurais quand même dit de suite qu'il fallait penser à Nice et que c'était bien d'avoir pris un point à Paris, mais que maintenant il fallait finir le travail en battant Nice et pour pouvoir aborder la fin de saison du mieux possible.
Mais Jérôme Diznis.
Oui, salut Laurent. Je sais que tu veux te projeter vers devant toi et c'est logique. J'aimerais juste savoir comment tu avais ressenti, toi qui avais à l'époque, qui était monté au front, qui avait soutenu Roland Courbis contre Vents et Marées, comment tu l'avais vécu? Est-ce que c'était une trahison? Comment tu l'avais vécu? Voilà, tout simplement ce qui s'est passé, ce départ à Rennes.
J'avais dit que j'en parlerais qu'au mois de mai, ou j'en parlerais que quand à la limite on recevra Rennes, ou quand on aura une tête un peu plus sympathique. Je l'ai vécu comme toute personne qui se bat corps et âme pour quelque chose et qui fait confiance à la personne avec qui il se bat, et qui du jour au lendemain la personne s'en va, quoi. Donc c'est quelque chose qui est dur à vivre. Et c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui a tout fait pour mettre Roland dans les meilleures conditions, c'est moi. Mais non, bon, c'est la vie, on apprend tous les jours. Je suis un jeune président. Je crois qu'il a dit, on était même en tant que président, on a beaucoup à apprendre. Donc j'ai encore appris encore appris sur l'être humain, ce que l'être humain pouvait faire que pour sa gueule, quoi. Mais bon, ça c'est comme ça, c'est pas grave.
Philippe,
qu'est-ce qui vous a le plus agréablement surpris, alors, de la part de Frédéric Hans? Alors vous allez me dire, oui, c'est facile, Laurent, déjà il fait gagner l'équipe, hein. Bon, ça c'est la première des choses.
C'est déjà pas mal.
Mais comment dirais-je, humainement, sur le terrain, à Grammont, ça doit changer, non, une tête nouvelle?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est un jeune entraîneur, même s'il a quand même quelques années derrière lui d'avoir entraîné, mais c'est quand même une personne jeune. Et puis c'est quelqu'un, je pense, alors heureusement pour nous et malheureusement pour lui, qui ça faisait un an et demi qu'il n'avait pas de club, donc ça fait un an et demi, il est arrivé avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'envie. Et c'est tout de suite, comme j'ai dit, on a mangé à midi, et on s'est appelé la veille, le lendemain il a mangé à Inou, et l'après-midi il est rentré chercher des affaires, et le lendemain matin il a entraîné. Donc il a impulsé de une envie qu'on n'avait peut-être pas, que peut-être qu'on n'avait pas. Et quelque part, c'est. Alors après, c'est qu'on n'est que depuis un mois ou deux mois ensemble, donc on fera un bilan pareil à fin de saison, et puis on verra sur 2-3 ans comment ça se passe avec Frédéric. Mais je sens quelqu'un de concerné. Même s'il n'est pas de chez nous exactement, mais il est quand même de la région, il n'est pas loin. Donc,
quand même,
il n'est pas loin.
Il n'est pas loin. Bref. Il n'est pas loin, donc il est dans l'esprit de chez nous. Puis non, puis c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui veut faire progresser les joueurs, puis c'est quelqu'un qui se met au service du club. Ça me change aussi parce qu'il voit l'intérêt du club avant de voir son propre intérêt, donc ça change un peu.
Tu as dit, on verra, on fera un bilan au mois de mai, puis dans 2-3 ans avec Frédéric, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te dis que tu as trouvé le bon coach, la personne idoine pour entraîner le MHSC?
Ben, vous savez, l'entraîneur, malheureusement, il est jugé que c'est ce résultat. Pour l'instant, il a des bons résultats, mais après, il y a une approche, il y a des rapports humains. Moi, c'est vrai que j'aime bien travailler en ayant des bons rapports avec les personnes. C'est quand même plus agréable d'aller le matin au centre d'entraînement avec quelqu'un que tu as envie de voir que quelqu'un que tu n'as pas envie de voir. Donc, je me projette toujours, moi, quand j'ai quelqu'un, je me projette toujours sur l'avenir, sur le long terme. Et là, c'est une personne, moi, qui, je pense, on peut rester quelques années ensemble, oui.
Jérôme.
Toujours pour se projeter, on a vu à Paris une très belle équipe, mais un grand pionnier. Et si je dis pas de bêtises, il est en fin de contrat en juin. Est-ce que c'est dans l'idée, aujourd'hui, de le prolonger?
Non, mais le deal avec Lolo, que ce soit avec Laurent, pionnier, et Vito, c'est très simple. Laurent, ça fait déjà deux mois ou trois mois qu'on a un accord plus ou moins de prolongation. Après, le seul but, c'est que il y aura une prolongation si elle maintient, voilà, parce que je ne fais pas le même budget, je ne fais pas la même équipe en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Donc, avec Laurent, c'est très clair. On a mangé ensemble très tôt, au mois de novembre, décembre, c'est calé, quoi. Dès qu'il y aura le maintien, il y aura une prolongation de contrat d'une saison, il n'y a pas de souci. Après, j'avais peut-être un entraîneur précédent qui n'en voulait pas, donc c'était compliqué pour, à l'époque, quand j'ai prolongé à la fois Jourdain et Ligali, c'était compliqué de prolonger Pionnier parce que Roland Courbis ne voulait pas. Donc, il y a un accord avec lui pour une saison de plus dès que le maintien est acquis.
Et le même accord pour Vito? C'est un peu dans le même
oui,
principe.
Vito, c'est un peu le même principe. Vito, ça fait 2 ans qu'on se revoit toujours en mars, avril, pour prolonger, là, on va dire que c'est un peu plus long parce que malheureusement on n'a pas acquis le 21, comme je vous dis, financièrement c'est pas la même chose, mais Vito sait que. Moi, bon, pour Vito c'est différent, je vous fais une confidence, c'est quand Souleymane Camara le décidera. Voilà. Donc voilà le message. Quand Souley aura dit il faut prolonger Vito, on prolongera Vito.
Philippe, il y aura deux façons très convaincantes de tourner une page sur cette délicate saison, parce qu'elle le restera. De toute façon, c'est déjà d'une part arriver à se maintenir, mais là c'est quand même bien parti. Et puis aussi tourner définitivement la page des Woutrich, des JC, des Deza.
JC qui était remplaçant en CFA de ce week-end.
C'est déjà un cap de franchi. Bon, là j'imagine que pour être un peu sérieux, j'imagine que là il va falloir faire le ménage un peu, non?
Oui, mais ça on va dire qu'on fera, Philippe, on fera chaque chose en son temps. Déjà qu'on acquiert le maintien, puis après au mois de mai, à la mai, juin, juillet, pour évoquer ces cas-là. C'est des joueurs qui savent qu'on ne veut pas les conserver, mais après il y a des joueurs, vous savez, quand il y a un joueur qui même il accepte d'être remplaçant en CFA, c'est compliqué de le faire partir, mais bon, on va tout faire pour le faire comprendre que son intérêt et le nôtre, c'est qu'il ne soit plus là.
C'est valable pour Ben Sebani aussi, qui est prêté. Est-ce que le club...
Non, c'est pas du tout le même cas, Rami. Rami, on fera une réunion, comme je vous dis, avec il y a un transfert. Donc le transfert est faisable si on est en Ligue 1. Si on est en Ligue 2, il est impossible. Donc, mais ça, c'est un choix. On a déjà fait une réunion il y a 15 jours, 3 semaines avec Frédéric pour un peu préparer la saison prochaine avec Bruno Carotti et Michel Mézi. Mais bon, il était plus dans son implication actuelle et de gagner les matchs que de se projeter sur la saison prochaine. Donc on a déjà fait une pré-réunion pour un peu anticiper. Mais après, chaque cas sera étudié au fur et à mesure. Et je pense que d'ici fin mars, on fera une réunion pour un peu ébaucher les grandes lignes du Montpellier la saison prochaine.
Et pour Yata Barré, Laurent ?
Oui. Ben moi, c'est une option d'achat pareil, et il y a une option d'achat assez conséquente. On verra son cas au mois de mai juin. Mais après, encore faut-il qu'il souhaite rester chez nous. Et après, s'il souhaite rester chez nous et que nous, on souhaite se conserver, ben.
C'est pas dit.
On discutera avec le club turc pour voir ce qu'on fait la semaine prochaine.
Julien.
Laurent, malgré l'année difficile, est-ce que c'est une année qui, personnellement, pour toi, va compter? Parce que on t'a vu en première ligne, tu en as parlé tout à l'heure, pendant la crise. Est-ce que c'est une année, finalement, où tu as pris un peu plus d'ampleur dans le club, et c'est une année qui comptera en tant que président pour toi, ici, au MHSC?
Ça, c'est vous qui analysez, qui voyez. C'est pas que la première année ou les premiers, c'est quelques mois que je suis en première ligne et devant. Après, c'est vrai, quand tout est beau, tout brille, je suis peut-être plus relégué à l'arrière-plan, c'est plus facile. Après, quand il faut aller mettre les mains dans les cambouis, c'est peut-être moi qui vais un peu plus, mais bon, ça, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais bon, après, je cherche pas la lumière, je cherche rien du tout. Moi, je cherche juste que mon club marche le mieux possible et soit toujours en Ligue 1, les années qui viennent. Donc après, je vous laisse faire vos analyses à vous, si je suis plus en avant, moins en avant, ou plus ou moins, ou je sais rien, ça m'est égal, ça.
Jérôme? Toujours de la gestion, enfin comme président, hein, il y a eu beaucoup de relations avec les supporters, plus que d'habitude, j'ai l'impression. Mm-hmm. C'était une volonté de se souder les coudes. Qu'est-ce qui a motivé un peu le fait que vous voyez régulièrement que
après, je ne sais pas ce qui a motivé. Après, vous savez, quand on sent que les gens, on s'approche toujours, quand on n'est pas bien, on s'approche des gens qui vous aiment. Donc, on s'est retrouvé où les supporters ont été assez exceptionnels malgré la saison qu'on vit. Donc, à partir du moment où ils sont exceptionnels, ben, à nous d'aller vers eux et leur donner ce qu'on peut leur donner et de les rassurer si on peut les rassurer. Alors après, voilà, moi, j'ai estimé à un moment donné qu'il fallait, comme moi, je me suis rapproché aussi de mes joueurs. Je pense qu'il fallait que je me rapproche de mes supporters parce qu'eux aussi donnaient tout pour le club et eux aussi ils souhaitent que la période soit en Ligue 1 la saison prochaine. Donc je veux dire, ça s'est fait assez naturellement qu'on se voit, qu'on échange. Et là, j'ai un nouvel entraîneur qui lui aussi aime bien ces choses-là. Donc il y aura certainement de nouvelles, d'autres réunions avec nos supporters. Et même Frédéric lui souhaite échanger avec beaucoup plus de monde. Donc ça, après, on verra comment on pourra le faire. Mais je pense que c'est une bonne chose de se rapprocher des gens qui te soutiennent et qui t'aiment et qui ont confiance en toi, de leur montrer qu'on est là, qu'on se bat et qu'on donnera tout pour avec nos moyens pour sauver.
Laurent, pour reprendre la célèbre phrase de l'icône Michel Mézi, qui un jour nous avait dit...
Il y en a quelques-unes, hein.
Oui, mais celle-là, on peut l'appliquer à tellement de situations. Il nous avait sorti un jour « Ce qui se voit ne peut pas se cacher ». Alors, c'est pas mal, hein.
Oui,
c'est pas mal. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez vu qui ne pouvait pas se cacher pour expliquer, bon sang de bonsoir, qu'avec la même écurie en l'espace de 3 semaines, par l'opération du Saint-Esprit, il joue bien au ballon alors qu'avant, il jouait pas bien, hein? Franchement, on va pas croire un instant comme il nous le bassine régulièrement, on a pris conscience de la situation, on s'est parlé, on a discuté. Non, c'est pas vrai.
Non, mais là, il faudrait peut-être rester plus longtemps ensemble pour évoquer certains cas, mais j'en ferai pas peut-être en fin de saison. Non, mais tout simplement, la mayonnaise a pas pris en début de saison, ça a été très 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 compliqué. Et puis on va dire, quand ton entraîneur du jour même s'en va, et qu'on essaye de mettre d'autres personnes que ça correspond pas, ben, c'est compliqué pour les joueurs. Donc, et peut-être qu'un peu de sang nouveau, ben, à forte dose, a fait énormément de bien à tout le monde au club, que ce soit aux joueurs, que ce soit au staff, et certainement à l'encadrement aussi. Donc, ben, il fallait peut-être... une personne nouvelle, et c'est peut-être pour ça aussi, malgré certaines critiques, qu'on n'a pas prolongé à l'époque l'ancien entraîneur de plusieurs saisons, parce que j'estimais, moi, que ça n'était aucunement, on n'avait pas l'intérêt pour nos têtes, pour nos joueurs et pour le club, parce que on savait ce qu'elle a fait au mois de décembre, elle l'aurait fait dans 6 mois, dans un an, ou dans un an et demi. Donc à partir de là, après les choses que je ne peux pas dire, parce que moi je vis des choses en interne, voilà, donc je sais ce que je ressens, parce que je vis les choses au quotidien, que c'est difficilement explicable à la radio ou dans les journaux. Donc voilà, on va pas vivre avec le passé, on a un entraîneur à qui j'espère va porter haut les couleurs de la paillade. Et puis voilà, tout simplement, après le passé, à vous et les gens de juger ce qui s'est passé et ce que les gens ont fait.
Julien, Laurent, tu t'es beaucoup battu aussi avec le club cette année pour essayer de remplir la Mosson, de mettre en place des partenariats avec les clubs de la région, pas mal de choses. Est-ce que dans un coin de ta tête, tu te dis toujours qu'il est temps de construire un nouveau stade ou que c'est un vieux serpent de mer et qu'il faut faire avec la Mosson?
C'est réducteur de dire il faut que. Je pense et j'estime, je l'ai eu dit, ça fait des années je le dis, ça lui fait rire, ça lui fait crier, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Je pense honnêtement que si nous restons à la paillade au stade de la Mosson, le club, à un moment ou l'autre, va mourir. Voilà, c'est tout. Après, je le dis, je le redis. Voilà, après on veut le comprendre, pas le comprendre. On a un stade qu'on ne peut pas recevoir déjà avant, on ne peut pas recevoir déjà après. On ne peut pas créer un lieu festif. Et je pense que les gens ont besoin maintenant d'avoir un lieu festif, un lieu où on peut venir se garer en voiture, ou un lieu où on peut venir en famille. Et on ne l'a pas, donc tout simplement. Après, on a un super outil, on a un stade qui peut recevoir 30 000 personnes. On a l'outil, on a des nouvelles loges magnifiques, mais à un moment donné, quand on voit ce que fait Bordeaux, ce que fait Nice, ce que fait Lyon, ce que fait Lille, on prend un retard énorme sur ces stades-là, voilà, et sur ces clubs-là, voilà, tout simplement. Donc, on dit souvent que il faut pas que l'argent tue le foot, mais bon, si j'ai pas d'argent, je peux pas avoir de joueurs, je peux pas avoir d'équipe. Et bon, malheureusement, je peux pas avoir des revenus au stade qui me font pouvoir avoir une meilleure équipe. Voilà, c'est vrai qu'on tourne à 10, 12 000 personnes au stade, ben c'est, ouais, alors peut-être qu'on a des problèmes, peut-être qu'on n'est pas très bon, certainement qu'on n'est pas bon, mais bon, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et pourquoi les gens ne pensent pas dans la Mosson, tout simplement? C'est pas parce qu'il y a l'équipe. L'année dernière, on était 7e et on n'a pas fait plus. Donc, et là, plus ça va, plus il y a de moins en moins de monde au stade. Et pourtant, on n'a pas des tarifs très élevés. Mais oui, il faut se poser la bonne question. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra, voilà, dès qu'il pleut, les gens n'ont pas au stade. On a vu la semaine dernière contre Lille. Bon, c'est vrai qu'il a plu énormément, mais bon, dès qu'il pleut, les gens n'ont pas au stade, ça va être compliqué, quoi. Alors, c'est vrai, il y a cette crainte de venir à la Mosson avec le, quand il pleut, mais bon, à un moment donné, il faut, je pense, se poser les bonnes questions. Et je pense que ça passera dans les 4-5 ans d'avoir un nouveau stade. Oui, honnêtement, je le pense fortement. Après, peut-être que je me trompe. Hein.
Le club, justement, enfin, pas le club, pardon, la ville a raté le coche de l'Euro 2016, hein,
ouais,
en présentant pas en n'étant pas candidat à l'organisation. Ouais. Je crois que Philippe Sorel, au contraire, aimerait participer à l'aventure de l'équipe de France féminine, enfin, de l'organisation. Je sais plus si c'est la Coupe du Monde ou les Championnats d'Europe, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que, justement, ça peut être l'occasion de rattraper le temps perdu?
Ouais, mais enfin, oui, enfin, je sais pas si le temps perdu se rattrape jamais pour moi.
Non, mais... ça c'est de Michel Mézy.
Michel
Mézy,
ça aussi.
Non, mais c'est de Barbara en vérité.
Non, mais après si on met des pansements sur une jambe de bois, donc je veux dire, au bout d'un moment, on n'a pas de parking, on n'a pas. Pour venir au stade, c'est encore heureusement on a le tramway, mais bon, au bout d'un moment, il faut être conscient qu'au moment c'est compliqué, quoi. Et on peut pas offrir décemment à des gens. J'ai une salle pour les VIP qui fait rire. Je peux pas recevoir, je peux même pas payer un coup à boire aux supporters de mon enceinte. Enfin, j'ai pas un stade, malheureusement, qui est adapté maintenant au sport de haut niveau pour sortir du monde. Après, on est très bien où on est, on s'adapte pas. S'il faut y rester 10 ans, on y restera. Mais après, comme je vous dis, ça sera très très dur l'avenir dans un tel stade. Voilà, tout simplement. Moi, je préfère prévenir les choses, qu'on me critique pas après, mais voilà, je sais, ça sera très compliqué, quoi.
Merci beaucoup, Laurent.
Merci infiniment, Laurent. Nous.
Merci, Laurent.
Avec plaisir.
Et bonne continuation.
Ouais, hein. Bon match contre Nice.
Oui.
À la Mosson.
Merci, Laurent. Merci.
Bonne soirée.
Au revoir.
On se retrouve dans, même pas une minute.
France Bleu Héros Matin. Écoutez, c'était ce matin entre 6h et 9h.
Ah, c'était pas facile. La question sur le Père Noël est une ordure. Bonjour, Nathalie.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, très bien. J'ai gagné, alors je suis contente.
Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. C'est quoi le nom de famille de Pierre?
Alors, c'est Mortès.
Mais oui, vous avez la bonne réponse, vous avez les places. Vendredi soir, au Zingo Zango, à Béziers.
Mais merci, bonne journée.
Chaque jour, démarrez la journée avec Antoine Blin sur France Bleu Héros.
À demain.
Choisissez l'excellence. Du CAP au Bac plus 3 général, technologique et professionnel, BTS et licence pro, le lycée privé polyvalent Saint-Vincent-de-Paul de Nîmes propose des filières d'avenir dès la 3e, en post-bac et en formation contrat pro ou encore prépa concours. Plus d'infos lors de la journée portes ouvertes du lycée, le samedi 12 mars ou sur www.vincentdepaul30.com.
France Bleu Héros vous invite au spectacle de Celtic Legends et Carlos Núñez le mercredi 30 mars au Zingo Zango à Béziers. Après 2 ans et demi d'absence, Celtic Legends revient sur les grandes scènes de France. France Bleu Héros vous offre un aller simple pour l'Irlande.
Carlos Núñez, l'ambassadeur de la Galice et Celtic Légende, le 30 mars au Zingo Zango à Béziers. Remportez vos invitations sur France Bleu Héros. Le club CERS sur France Bleu Héros.
Allez, 10 minutes encore pour parler d'avenir. À présent, on a déjà parlé d'avenir avec Laurent Nicolin qui vient de nous parler longuement d'un futur stade.
Moi, j'ai hâte d'être au match contre Rennes. Oui, je sais pas, je pense qu'il y a plein de vérités qui vont être lâchées la semaine avant Rennes. Et je pense que si on est vraiment, alors il faut espérer qu'on soit maintenu, qu'on soit vraiment tranquille. Mais la semaine d'avant Rennes, je pense que ça peut être très rigolo parce que je pense qu'on va apprendre plein de choses et que ça va être sympathique.
Avant Rennes ou après?
Non, je pense qu'avant Rennes.
Écoute, Julien, c'est pas un conseil que je te donne, mais je pense qu'on ferait bien de calmer un peu le jeu, parce qu'à force de dire qu'on va attendre quelque chose, ça va peut-être les pousser à ne rien sortir du
tout. Bon, on rappelle pour mémoire que Roland Courbis entraîne à présent Rennes avec succès.
Est-ce que vous pensez sincèrement, Michel, qu'un seul auditeur qui est fidèle à notre émission l'aurait ignoré?
Je ne sais pas, on a peut-être des gens qui tombent sur la radio par hasard, qui disent, tiens, et si j'écoutais une émission de foot? Voilà.
Il y a bien des entraîneurs qui sont débarqués à Rennes Montpellier, qui une semaine plus tard par hasard arrivent à Rennes. Tout arrive.
Je suis obligé quand même de recadrer un petit peu, de préciser de quoi on parle. Roland Courbis qui a gagné avec un Dembélé extraordinaire.
C'est le Ninga du Raouzan.
Voilà, j'étais sûr qu'il allait le dire.
Non, par contre, je trouve que Laurent Nicolin nous a déjà dit beaucoup de choses sur son ressenti. Il a fait avec beaucoup de modération, mais on sent qu'il a
un gros sur la patate
et à juste titre.
Bon, donc on attend le mois de mai pour en parler. Parlons de Nice, donc.
Aïe.
Voilà une ville qui a un stade qui lui est propre ou pas vraiment. Il appartient à la mairie.
Dernier match de Courbis. J'y reviens.
C'est ça.
C'était un bon match à Nice, d'ailleurs.
Oui, perdu.
2-0.
1-0, mais de peu à la fin, sur la toute fin.
Et oui,
le problème de Nice, c'est qu'il y a deux Nice, en fait. Il y a le Nice de Ben Arfa, puis il y a le Nice sur Ben Arfa. Donc, je sais, ce week-end, c'est Ben Arfa.
Le Nice Ben Arfa, ce week-end.
Ouais, et Nice à l'extérieur par rapport à Nice à domicile?
Non, mais c'est une équipe. Non, mais de toute façon, ici, ils sont en haut.
C'est une équipe emmerdante.
C'est une équipe emmerdante. Mais alors après, sans faire des comparaisons entre les joueurs, je pense que Ben Arfa est un peu plus fort que ce que peut être Sofiane Boufal, le joueur lillois qui a fait beaucoup, beaucoup de mal au Montpellierin. Mais je pense qu'il devrait y avoir un peu le même système. C'est-à-dire que je pense que Brian Dabo va s'occuper d'atteindre Ben Arfa personnellement. Alors, Ben Arfa est exceptionnellement fort. C'est un diamant, ce joueur-là. Quand il a envie de jouer, ce serait très compliqué de l'arrêter. Mais voilà, c'est sûr, comme le dit Jérôme, si Ben Arfa est en grande forme, ça sera compliqué d'arrêter les Niçois. Mais voilà, il y a plein d'autres joueurs bons à côté. Mais c'est sûr que si Ben Arfa est au sommet de son art, on va passer une sale après-midi.
C'est une équipe qui est là depuis le début de la saison, qui est pas flamboyante, qui est pas extraordinaire, sauf une ou deux fois. On a eu deux ou trois matchs extraordinaires. Quand Ben Arfa était extraordinaire, mais elle est toujours là. Alors elle est quatrième, je crois.
Quatrième.
La saison, elle s'est maintenue à ce niveau-là. C'est une valeur sûre du championnat cette saison.
Une équipe très jeune avec beaucoup de jeunes joueurs formés à Nice. De toute façon, c'est la patte Claude Puel. C'est un peu ce qu'il avait fait à Lille avec des jeunes joueurs, notamment ce jeune milieu de terrain Cossiello, Seri, Ben Arfa, Germain à la pointe de l'attaque, avec une défense très expérimentée. Mais voilà, c'est des joueurs très jeunes, très talentueux, et c'est une équipe, en tout cas, logiquement, avec ce que monte Montpellier depuis que Hans est arrivé, c'est-à-dire c'est une équipe qui a envie de jouer au ballon, et le Nice qu'on voit depuis 6 mois, ça devrait nous offrir un joli spectacle. Oui. Donc, si les auditeurs nous écoutent, venez au stade, il va y avoir du joli foot.
Alors, ça va jouer. Oui, d'autant qu'avec 44 points, les Niçois ont assuré leur maintien. Non, je plaisante à peine.
Comme dirait Giroud.
Non, mais je plaisante à peine, mais c'est vrai.
Ouais, je pense que c'était leur objectif de début de saison, c'est sûr.
Oui, alors, c'était l'objectif de beaucoup de monde, effectivement. Le calendrier est chaud parce que après Nice, on va à Saint-Etienne.
Je me demandais à quelle heure allait-il aborder l'épineux problème à venir.
Certes, il nous manque encore 6 points.
Deux victoires à domicile.
Ok. Je sais que les autres aussi vont se rencontrer les uns les autres. Certes, mais c'est vrai que recevoir Nice, le quatrième, avant d'aller à Saint-Etienne, l'européen, Geoffroy Richard, où l'on a souvent des difficultés, on se dit qu'on a bien fait d'agranger des points avant, quoi.
Sans blague.
Philippe l'a souvent dit.
Vous n'avez pas le sentiment d'avoir ouvert une porte, d'avoir enfoncé une porte ouverte, là?
Ça, c'était pas de Michel Mézy, par contre.
C'est pas mal.
On l'a souvent dit ici, Michel, que le calendrier offre à Montpellier une perspective de prendre des points lorsqu'il y a eu l'enchaînement Toulouse, qui était un adversaire direct, Lille. Le miracle, c'est Angers, qui était une équipe qui était en haut du classement. Mais il y a eu un mois de février où les Montpelliérains avaient une véritable opportunité de prendre des points et de se mettre à l'abri un peu avec le maintien, ce qu'ils ont parfaitement fait en gagnant à Ajaccio notamment, en gagnant à Angers, en battant Lille et en battant Toulouse, donc quatre adversaires directs. Et là, évidemment, le calendrier qui arrive, ben, c'est des équipes qui sont en haut du classement, mais les Montpellierains ont pris suffisamment de points d'avance pour les jouer un peu plus libérés.
En tout cas, pour les affronter sans avoir le ventre
noué. Imaginons qu'on ait perdu contre Toulouse et Ajaccio avec le calendrier qui arrive.
Là,
il y avait la Corse qui descendait. Michel quittait le studio, il était déjà en Ligue 2, il préparait l'émission.
Non, il était pendu.
Il voyait l'année prochaine des déplacements à Clermont, à Bourg-en-Bresse. Michel était au fond du seau là ce soir.
Alors, on a parlé de Dembélé et on a fait le rapprochement avec
Ninga. On s'en fout de Dembélé.
Non, clairement. On parlait de Ninga.
Non, je croyais que vous vouliez parler du déplacement à Saint-Étienne et à Guingamp, moi.
Mais non, je suis sur Ninga. On faisait le rapprochement avec Dembélé tout à l'heure. Ninga, en voilà un. Qui n'a plus marqué depuis des lustres.
Oui, mais il faut dire en même temps qu'il a, il a de moins en moins le temps de jeu déjà pour commencer.
Il est là tout le temps, il a été là à Paris, il fait des efforts, mais la période de 6 buts en 3 matchs, j'exagère à peine, est passée.
Lui par contre doit se dire, enfin s'il est superstitieux, comme le sont beaucoup de joueurs de foot, que la présence au bord du terrain de l'ex était pour lui véritablement un tremplin, mais qu'aujourd'hui le successeur voit les choses autrement, et je pense que c'est une sage résolution qu'a eu Frédéric Hans de revenir au basique et de se dire que ce garçon-là est pétri de talent, mais que voilà, que c'est du brut quoi. Il faut tailler tout ça, et je pense que si aujourd'hui Casimir a moins de temps de jeu, quelque part c'est un peu logique quoi. Et puis bon sang, sous les remarques, il y a Tabaré à marquer, Berigo marque. Bon, à 20 ans, il a tout l'avenir devant lui.
Hein. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que Casimir Ninga connaissait pas l'Europe avant d'arriver. On est l'hiver, il vient du continent le plus chaud. Je pense que c'est compliqué pour un joueur de découvrir déjà le championnat, il s'était très vite acclimaté, mais ça n'a rien à voir. Le climat aujourd'hui, on est en plein hiver, et je pense qu'il a aussi cette il faut aussi passer ça, ce qui paraît pour nous évident parce qu'on est dedans, mais lui découvre les frimas, et c'est voilà. Je pense que ça aussi il faut le comprendre, et c'est pas quelque chose de
non, faut l'intégrer. Il a plein de choses à digérer. On en a parlé il y a 15 jours. Il a son mariage et sa femme qui est toujours pas avec lui. Il a ce nouveau statut, mine de rien. On se rappelle, on a dit que c'était le sauveur de Montpellier.
On commence à l'oublier ça. Hein,
non, mais,
ce statut-là.
Non mais je veux dire, ça lui a fait quand même plein de choses à digérer.
C'est vrai qu'il a été.
Non mais il a marqué 6 buts. Il a marqué 6 buts. On lui a prolongé son contrat immédiatement une saison de plus en disant on sait jamais, on le protège si jamais il y a des clubs anglais qui arrivent. Il y a ce mariage, il y a le changement, double changement d'entraîneur quand même. Jérôme, il dit il faut qu'il découvre. Il a donc découvert qu'on pouvait changer une fois l'entraîneur dans une saison et qu'on peut même le changer une deuxième fois. Mais l'entraîneur qu'on a changé, il est quand même toujours là dans les parages.
Et l'entraîneur qui entraînait, c'est pas celui qui parlait en plus.
Donc, non, mais c'est du coup très compliqué aussi pour lui. Il a plein de choses à gérer. Et du coup, il a ce nouveau statut et là, il joue un peu moins. Mais je pense
En même temps, à Paris.
C'est un joueur, c'est un besogneux.
Oui. Franchement, il s'est pas ménagé. Bon, évidemment. Face à Vanderbilt ou Maxwell, c'est difficile. Mais bon, il s'est pas ménagé. Il a pas laissé sa part au chien, comme dirait l'autre.
Il va exploser de nouveau au mois d'avril ou la saison prochaine quand il aura refait une préparation. Je me fais pas trop soucis sur la qualité de ce joueur-là.
Je m'en veux parce qu'on a plus qu'une minute, mais vous n'avez pas parlé avec Laurent Nicolet. On a parlé beaucoup de renouveler ou pas. Et généralement, c'est renouveler les contrats de ceux qui sont déjà là. Hein,
vous voulez nous enfoncer, quoi.
On n'a pas beaucoup parlé du mercato et plutôt, je voulais dire, est-ce que on peut, au jour d'aujourd'hui, sans être assuré du maintien, etc., 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 tout en l'étant un petit peu, se projeter sur un mercato,
Il a dit quand même, plan A ou plan B. Voilà, quand on aura atteint la barre des 42-43, on pourrait voir
faire. Il y aura des vrais problèmes, il y aura trois problèmes à régler. Dabo, Martin, Sanson.
Merci d'avoir été bref. Salut Jérôme, Julien, Philippe. Et